La vengeance de l'impératrice, fin du chapitre 2. Je suis persuadé, insista Callias, que tu ne sais pas profiter de cet exil. Ce pays n'est pas si barbare. Les Scythes sont un peuple d'une civilisation très riche. Ils ont même eu et ont encore des savants très instruits. Tu parles un peu le jet, et si tu faisais des efforts, tu changerais d'avis. De l'autre côté de cette bourgade, il y a un vieux sarmate qui sait énormément de choses. Il parle peu, mais quand on l'écoute, on reste très surpris. Il ne mémorise pas les gens d'ici. Il parle aussi le grec, et parfois il m'a beaucoup appris. Même j'ai été stupéfait un jour qu'il expliquait à une jeune femme comment était fait l'univers. L'univers, comment ça, dis-moi? Oui, il lui racontait les étoiles, le soleil, la lune. Il a dit des choses assez bizarres, par exemple, que la terre est comme une boule tournée par un potier. Il avait rencontré, dans sa jeunesse, des Phéniciens qui lui affirmaient que de leurs ancêtres avaient fait le tour de l'Afrique et avaient remarqué que le soleil se levait à leur droite quand ils étaient allés beaucoup vers le sud, et puis que l'océan est une mer immense qui entoure toute la terre. Et un jour, ils se sont retrouvés surpris d'arriver aux colonnes d'Hercule. Ils ont poursuivi leur navigation, ont longé la Libye et sont finalement arrivés dans le delta du Nil. Tu te rends compte? Tu le penses aussi, toi, que la Terre est une boule? J'ai lu qu'un savant grec d'Alexandrie, Ératosthène, il me semble, avait calculé sa circonférence, et ses amis l'avaient pris pour un doux rêveur. Et si la Terre était ronde, il y a longtemps qu'on s'en serait aperçu. Ah, tu sais que mes parents sont venus ici depuis Milet. Mais une fois, dans sa jeunesse, mon père s'était embarqué vers Alexandrie pour du commerce. Il m'avait dit que depuis la haute mer, il avait vu le sommet d'un phare, sans distinguer la ville. C'est bien la preuve que la mer est, comment dire, bombée. Et alors, elle doit l'être partout, sur la terre. Moi, je crois à cette histoire. Tu vois que chez les Scythes, il y a des savants. À ta place, je les mépriserai moins et je chercherai à mieux les connaître. Je te conduirai chez ce vieux bonhomme. Il raconte aussi que dans l'ancien temps, les Scythes avaient quitté la Tauride et avaient envahi le pays des Mèdes en passant de l'autre côté du Caucase. Au lieu de rester ici, tu devrais essayer de partir jusque chez eux. Tu parles le jet, ils te comprendront, et la Tauride te paraîtra plus agréable que Thomis. Et même je partirai avec toi, si tu veux. Mon bon Callias, oh, je m'aperçois que tu es bien savant. Je te remercie de ta suggestion. Mais l'ennui, c'est que je ne dois pas m'éloigner de Thomis. Et puis ce serait une grosse expédition, et je n'ai pas les moyens d'une telle dépense. Déjà, à Rome, mes amis et ma femme se battent pour conserver ma fortune personnelle. Je suis qu'un Romain fait des pieds et des mains pour exiger que soient confisqués mes biens, ceux d'un exilé. Je viens d'achever contre lui un long poème dans lequel je le menace des pires catastrophes. Je l'appelle Contribis et m'apprête à envoyer ce texte au mien pour qu'il le répande dans Rome. Mais je ne redoute pas trop ce salopard, car on m'a dit que César s'oppose à ses manœuvres. Alors, César n'est pas tellement irrité contre toi. Oh, je veux bien te croire. Il n'empêche qu'il m'a relégué ici. Je suppose que la condamnation n'est pas de lui en personne, oui, mais comme il vieillit, il demande l'avis de sa femme, Livie, dans tout ce qu'il décide. Elle a dû exiger que je sois puni pour avoir suggéré aux Romaines de se libérer. J'ai écrit un art d'aimer dans son livre 3. Je donne aux femmes des recettes pour aimer comme elles l'entendent. Mais ce que tu me dis me surprend. Chez les Scythes, les femmes tiennent presque la première place. Eh bien, chez César, c'est comme ça. J'en paye le prix fort. Livie fait tout pour se venger de moi, de mes succès, de mes idées. La seule chose que je souhaite... que César Auguste continue de m'exiler, mais en Italie. Je lui ai envoyé une grande lettre d'excuse. Il répond pas. Callias se tut. Dans son esprit simple de malheureux, Ce genre de problème n'avait pas grande signification. Ils vivaient, survivaient tout bonnement. Ils partageaient la tristesse du poète, comprenaient ce déracinement et souffraient à son tour de se trouver impuissant pour aider ce Romain du bout du monde. As-tu fait pour tes amis une description du pays de Tomis? Oh là là, oui, le contraste est fort avec l'Italie et même la Grèce. Par exemple, eh bien, quand le triste hiver a montré son hideux visage, on voit ici les gens accablés sous un tapis de neige. Et avant que le soleil et les pluies ne le fassent fondre, Borée, qui vient du nord, la rend éternelle. Si la première a commencé à fondre, une autre couche recouvre la première, et en nombre d'endroits, elle dure 2 ans. Telle est la violence de l'Aquilon qui renverse tours élevées, arrache et emporte les toits. Hommes et femmes sont alors vêtus de peaux cousues pour se protéger du froid. De tout leur corps, on ne voit que le visage. De la glace pend à leurs cheveux, à leur barbe blanche par le givre. Pour boire du vin, on ne l'épuise plus, on le casse en morceaux. On ne boit plus, on le suce. Ruisseaux et rivières sont pris. Il faut briser les sources pour y tirer de l'eau qui gèle dans les maisons. Même le Danube est gelé dans ses embouchures. Là où passaient les bateaux, on peut aller à pied et le cheval y marche sans ennui. Tu le sais, Callias, et tu as vu aussi bien que moi des bœufs sarmates y tirer des chariots. Mes amis romans ont-ils de la peine à me croire? J'ai vu la mer du pont figée par la glace sur laquelle j'ai failli me rompre les os. Des vaisseaux bloqués se tiennent droits comme des statues de marbre. À quoi bon des voiles et des rames? J'ai vu des poissons raidis. La pêche est devenue impossible. Et c'est alors que des hordes de barbares en profitent pour arriver sur leurs chevaux rapides et dévastent les campagnes. Pillages, massacres. Ils emportent les maigres récoltes, le bétail, le magot des pauvres paysans, réduisent en esclavage, violent filles et femmes, incendient ce qu'ils ne peuvent emporter autant que de pauvres chaumières. Mais en même temps de paix, les gens vivent dans la peur. On hésite à labourer les champs laissés en jachère. À quoi bon? Peu ou pas de raisins, un peu de jus infâme qu'ils appellent vin. Les arbres sont rares, incapables de se reproduire. Pour trouver du bois, il faut des journées de marche en terres hostiles, et seulement en été, des bateaux venus de Phrygie apportent des poutres de charpente. Voilà, mon beau Callias, l'image que j'ai de ce pays. Et tu comprends à quel point l'Italie peut me manquer. Je vis ici un supplice. Oh, tu me parles d'aller en Tauride. Encore plus au nord. Oh, imagine le climat. Peut-être, mais là-bas vivent les vrais scythes. Ils y cultivent le blé, ils récoltent tous les fruits, élèvent et engraissent du bétail. Ils ont une vie normale et les barbares, comme tous les appellent, n'osent pas les approcher. Mais Callias, faut-il te redire indéfiniment que tout voyage m'est interdit? Je suis un condamné, un relégué, bref, un exilé et sous bonne garde. Cela, je le dois à la vengeance d'une femme, celle de César Auguste. Tu sais que je suis contrôlé par la garnison d'ici. Et si je m'éloigne de plus de quelques 1 000 Romains, je risque la mort. Pendant ce temps, à Rome, on lisait ardemment tous les poèmes que le poète envoyait aux uns et aux autres. Tout le monde savait ainsi les conditions dans lesquelles vivait Ovide. Mais ce monde était loin de vraiment comprendre, voire de connaître, les motifs d'une telle relégation. La majorité du peuple et de l'ordre sénatorial n'aimait pas Octave. Ses succès militaires avaient été en réalité ceux d'Agrippa. Il devait être un dictateur, sa situation dans la famille des Julii. Parfois, ses attitudes prétentieuses irritaient même ce qu'il appelait mes amis. Ovide, dernier en date de tous les grands poètes qui avaient précédé, passait pour victime, soit d'un complot, soit d'une injustice. Ou c'était Octave, ou c'était Livie, car dans une longue lettre à Octave, Il avait laissé entendre qu'il avait vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Dans ce cas précis, l'injustice devenait de plus en plus flagrante, car il n'y avait pas eu de procès ouvert, clairement débattu et plaidé. Or, le Romain moyen n'aimait pas ce genre de trafic obscur, d'autant plus injuste que caché. Le Sénat ne semblait pas avoir protesté. La condamnation restait inexpliquée. De son côté, le poète n'avait rien précisé. Personne n'accréditait l'idée que la faute gisait dans l'art d'aimer, auquel tout le monde applaudissait, quoique en sourdis et dans des cercles fermés. Certes, le livre 3 posait le problème de la liberté des femmes, mais cette liberté semblait acquise avec le nombre de divorces réclamés et obtenus par des matrones, par ailleurs irréprochables. Les tribunaux les leur accordaient sans trop se référer aux traditions de la répudiation, pouvoir accorder jusque-là au seul mari. Ainsi, Ovide l'avait fait caler dans le sens de l'évolution des mœurs. Et si le vrai motif était là, on ne le comprenait pas. Chanter ou dire ce que tout le monde pratique ne pouvait entraîner ce type de condamnation. Ovide avait préféré plaider coupable dans une lettre adressée à Octave. Mais pourquoi apaiser Octave? Apaiser l'impératrice? Celle-là, on ne l'aimait pas non plus. Elle avait beau s'afficher comme une belle nitouche, personne ne croyait à ses simagrées. Et un jour, Callias décida entre le repas et la promenade. « Tu ne le sais pas, cher poète, mais on vient de m'accuser d'être tout le temps avec toi, de m'occuper de toi. Les gens se plaignent que tu passes des heures à écrire contre ce pays, à n'y voir que des imbéciles et des rustres, à faire des récriminations interminables. Il est certain que tu n'as pas entièrement tort, mais beaucoup de jeunes t'ont accueilli, appris leur langue, t'ont parfois reçu dans leurs fêtes. Maintenant, ils protestent et te trouvent injuste à leur égard. Je me plains du pays, mais pas des gens. Oui, mais le pays, c'est aussi les gens. S'ils ne peuvent tout avoir, comme en Italie, c'est pas de leur faute. Au début, quand je venais te voir pour les premières fois, c'était par curiosité. Mais je dois avouer que chaque fois que nous parlons, tu rappelles la souffrance à laquelle je compatis, tu le sais. Mais ces gens peuvent s'enlacer, voire se tenir de plus en plus à distance. Pardonne ma sincérité. Callias, tu es grec. Tu hérites par là d'une haute culture. Grâce à tes parents, tu as pu dépasser ton handicap physique. À la maison, vous ne parlez pas seulement de chasse, de pêche, de peau d'ours ou de neige. Vous avez quand même des conversations relevées. Tu m'as dit qu'un vieux jette est un grand savant et que tu l'as entendu parler d'astronomie. Eh oui, mais c'est bien un jette, un héritier des Scythes. Et je t'ai fait remarquer que les Scythes avaient une civilisation digne de celle des Romains. Bon, admettons, mais il est seul au milieu de ces barbares. Mais non, tu généralises sans chercher des intelligences atomistes. Tu écris tout le temps, mais tu ne sens pas poser des questions ici ou là. Tu vis renfermé. Tu gardes les préventions que tu avais à ton arrivée. Oui, tu es exilé, oui, tu es malheureux. Mais tu ne luttes pas assez, comme nous l'avons fait, mes parents et moi, quand nous sommes venus ici. Je crois que si je n'étais pas près de toi, tu serais déjà mort d'ennui. Hélas, oui, tu sembles avoir raison. Mais comprends-moi, à Rome, j'avais tout pour moi, maison, épouse, enfant, fortune, célébrité. Et ici, rien de cela. Oui, rien de tout ce que tu dis, oui, mais pourtant tu ne sais pas voir le reste. Tu as lu les philosophes grecs, tu me l'as dit. Et pourquoi ne pas mettre en pratique les paroles sages d'Épicure? Sagesse, patience, courage, justice. Ah, tu ne sais pas lire et tu connais Épicure? Oh, j'entends souvent mon père en parler pour apaiser ma mère. D'accord, il est vrai qu'à Milet, ta famille n'était pas riche. Quand vous êtes arrivés ici, la différence n'était pas grande. Mais tu ne mesures pas celle entre Rome et Tomis. Beaucoup de Tomitains sont accueillants, gentils, souriants, mais avoue qu'on vit ici dans la peur, le froid, le manque du plus simple confort. Chaque année, des sauvages viennent t'attaquer, tuent, emmènent en esclavage. À Rome règne le beau temps et la paix. On y trouve à s'habiller comme on veut. Des marchés quotidiens proposent viandes diverses, légumes, pâtisseries. On y lit, on édite, on discute, on va au théâtre, au cirque. L'argent circule, les écoles sont nombreuses. Ici, je regrette de le dire, mais les gens survivent dans un désert. Et j'en suis souvent demandé comment, pourquoi ils y restent. Ovide, mon ami, je ne veux ni ne peux te contredire, puisqu'il m'est impossible toute comparaison entre ici et Rome. Pourtant, tu es un homme cultivé, grand connaisseur de la vie, des religions, de la politique. Et dans ton cas, tu devrais donc savoir que la vie est dure partout sur la terre. À Rome, il n'y a pas que des gens heureux. Il y a sûrement des clochards, des imbéciles, des handicapés comme moi, des crèves-la-faim, des violences, des illettrés, des assassins. J'ai entendu mon père dire qu'il faut s'adapter partout aux conditions de l'existence. Il m'a rendu calme et généreux où je sois. Oh, mais tu essaies de me rendre philosophe? Pourquoi pas? Callias, réfléchis. La philosophie n'est pas la résignation. Jamais les philosophes de ton pays n'ont prêché qu'il ne fallait pas se battre pour une vie meilleure. Surtout quand le malheur t'est imposé par des hommes. La patience que recommande Épicure est relative à la réalité naturelle. Mais pour la société humaine, il conseille courage et justice. Or, je dois être courageux pour exiger la justice. Tu sais qu'en grec, la sophia, la sagesse, résulte d'une accumulation de connaissances. Philosophie est amour du savoir. Et non pas une résignation. Pourtant Zénon dit qu'il faut s'incliner devant la réalité et faire avec elle. Hé, dis-moi, tu te fais brasser à mes yeux pour un ignorant? Mais tu sais bien des choses, je me demande si vraiment tu n'as pas lu. Non, je ne sais pas lire, je sais pour avoir entendu parler. Au travers du courrier qu'il recevait de Rome, Ovid savait plus ou moins ce qui s'y passait. Octave Auguste prenait de l'âge et Livie y gardait un tempérament de feu. Elle avait 5 ans de moins que lui, mais elle semblait ne pas avoir vieilli et en prenait d'autant les décisions politiques et militaires à la place de l'empereur. Certains l'appelaient Octavia Augusta. Le succès des œuvres d'Ovid ne se démentait pas. Virgile était mort depuis près de 30 ans. On en avait appris par cœur des passages de l'Énéide et de ses Géorgiques. On disait même qu'Octave en réclamait parfois des récitations. D'autres fois, en l'absence de Livie, il demandait des récitations d'Ovide dont il semblait regretter vivement l'absence. Il avait fini par savoir par cœur des tirades de l'art d'aimer, malgré l'interdiction prononcée contre cette œuvre, dont il reconnaissait en secret la valeur indiscutable, raison pour laquelle la dite condamnation n'avait pas entraîné des rigueurs contre la personne de l'auteur. Ovide passait pour aussi génial que Carus ou Horace, Propers ou Tibulle. Dans le tout petit cercle de ses conseillers, quelques-uns lui faisaient remarquer sans qu'il manifestât un quelconque agacement. Tuticanus et Fabius Maximus osèrent demander un rendez-vous. « César Auguste, ton pouvoir est si grand. Tu as celui d'annuler les sentences des tribunaux et même des plus sévères, voire celui d'une relégation. « Je vous vois venir !» dit Octave, avec un sourire en biais. « Ton intelligence dépasse la nôtre. Ah, vous voulez me parler de votre ami Octvide? j'ai reçu de lui un long poème dans lequel il plaide son innocence, qu'il reconnaît avoir commis une simple erreur, non un crime, que son œuvre reste dans les limites de l'acceptable, si l'on en sait de la parfaite correction. Mais il est vrai, oui, je veux bien aller dans son sens, car je l'admire aussi et surtout pour ses métamorphoses, pour ses fastes qui montrent clairement son respect de la religion, de notre religion, il est vrai. Il est vrai, c'est dit, mais certains avis ne sont pas du même ordre. Ah, tu laisses entendre celui de l'impératrice. On ne dit pas cela, mais je dois tenir compte des avis en question. Et après tout, on me dit par ailleurs qu'Ovide n'est pas si malheureux que ça, que les gens de Tomie sont bien accueillis et que là-bas il plaît. Vous savez sans doute que la garnison du Pontexin le contrôle. Elle ne m'a pas signalé que votre relégué vit dans le délabrement tragique qu'il essaye de peindre ainsi à tout le monde. Il fait froid là-bas, bien, mais les hivers sont rudes aussi en Gaule cisalpine. On s'y couvre, on s'y chauffe. Ne parlons pas de la vraie Gaule, plus au nord. Les jets ne sont pas plus violents que les Belges ou les Arvernes. L'Italie n'est pas un paradis. Les habitants du Brutium sont dangereux. Des prétoriens y ont fort à faire. Certes, César, ton argument est exact. Cependant, il nous semble que notre ami a déjà passé 5 ans sur les bords du pont et qu'à la longue. Mes amis, je suis vieux, je souffre dans toute ma carcasse. Il me faut des potions, des cannes pour marcher. Je ne dors plus ou très mal. Je sens que le terme de ma vie approche à grands pas. Ces affaires-là, c'est mon successeur qui s'en chargera. Ces tracas ne me regardent plus, oh, ou si peu. Mais César Auguste, tu as encore tout pouvoir, enfin. Mes amis, soyez assez bons pour m'économiser de vos plaintes. Ovide est un très grand poète, je le sais. Il a 20 ans de moins que moi, et il a fort de résister. Moi, c'est mon retour aux ancêtres dont je dois me soucier. Je vais partir pour dormir avec Livy et me reposer avant d'y fermer les yeux. Tibère se chargera d'examiner ce problème et peut-être de faire revenir votre ami. Et puis, je ne veux fâcher personne de mon entourage. Merci de votre visite. Quelque temps après, arrivèrent à Tomis des bruits confus. Callias accourut chez Ovide. J'ai des nouvelles. Dans une réunion populaire, un centurion du nom de Julius Vestalis nous a fait savoir que César Auguste est mort à Nolé et que son fils Tibère est sur le point de prendre la tête de l'Empire romain. Nous devons rester calmes et attendre d'autres précisions, suivant les ordres reçus. L'impératrice Livie aurait été déclarée Livia Augusta et pris les rênes du pouvoir malgré ses 73 ans sonnés. Nous devons nous plier à ces décisions en ce qui concerne les garnisons du Pont Euxin, entre autres. Ainsi est mort celui que tu appelais parfois Jupiter. Tu vois que les dieux sont mortels. Mais je n'ai pas demandé s'il y avait du nouveau pour toi. Ton Jupiter, juste avant de rendre l'âme, aurait soufflé à sa Junon. La pièce est jouée. Te souviendras-tu de moi? Tu vois que ton sort va peut-être changer. Ah oui, mes espoirs renaissent. Alors, tu vas me quitter? Mais non, mon bon Callias. Si je repars enfin pour l'Italie ou une région plus proche, je te demanderai de t'en aller avec moi. Ma femme et mes amis m'ont conservé assez de fortune pour que tu ne risques rien. Et si je meurs avant toi, plein de gens haut placés auront souci de te protéger, voire de t'adopter, car j'aurai pris pour toi des dispositions. Tu pourras aussi vivre tranquille que Volteius Mena. Volteius Mena. Oui, dans une épître à Bessène, Horace lui avait cité cet homme comme une image de l'indépendance. Ce Volteius Mena était crieur public. Mais un jour, un certain Philippe, orateur célèbre pour ses plaidoiries, avait invité notre homme et l'avait engagé à s'installer à la campagne, pour fuir Rome et tracas. À la longue, subissant vols divers et ennuis de toutes sortes, Volteius courut chez Philippe et lui dit: Partons, génius, tes pénates et tes lards, je te prends à témoin de ma misère et je te supplie de me laisser reprendre mon ancienne existence. Ce qu'il fit. Donc tu n'auras pas à venir te plaindre que je t'ai forcé. Bon, mais je ne parle pas latin, juste ce que tu m'as appris. Peu importe, à Rome on parle couramment le grec. C'est notre langue des affaires, du commerce, de la philosophie. Tous les grands esprits le pratiquent parfaitement. Les petites gens aussi. Et puis tu te feras au latin, une langue facile, plus que le grec d'ailleurs. Et en peu de temps, tu en sauras autant que moi. Je te prendrai comme secrétaire. Ah, Callias, un nouvel avenir s'ouvre à nous. Nous allons arroser ça avec ta bière et rire enfin. Allez, trinquons. Mais je te sens bien enthousiaste. L'avenir, l'avenir. Oh, il ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. La mort d'Octave avait fait un bruit monstre dans la capitale. On sait que Livie était détestée et que son fils n'avait pas de réputation en dehors de ses succès militaires. Une foule des grands jours avait assisté à la crémation de l'empereur sur le champ de Mars. Le peuple s'égarait en question sur les suites. Ce jour-là, il avait beaucoup plu, et les gens y voyaient un avenir plus sombre que celui qu'Ovide espérait. Fortes pluies et orages avaient éclaté dans toute l'Italie, comme pour prouver la colère des dieux. La foudre avait plusieurs fois frappé le Capitole. « Mauvais présage » avait-on crié ici ou là. Pourtant, la situation de l'Empire rassurait. Les révoltes en Germanie avaient été réprimées. La Dacie et la Scythie tenues en respect. L'Égypte fournissait le blé. La piraterie n'existait presque plus. La Gaule tranquille regorgeait de ressources. Le nord de l'Italie, dont Octave avait réparti les terres entre ses soldats, devenait riche d'une culture très productive. Tout allait comme il faut, mais un peuple romain très superstitieux redoutait la moindre manifestation climatique importante. Une éclipse, une comète, voilà le monde entier en émoi. Faire des sacrifices pour apaiser les irritations divines, organiser des prières publiques, théâtres fermés, autant que le grand cirque. Le Tibre menaçait cru. Le journal parlait allait bon train. On s'attendait à de nouvelles révoltes dans les provinces où des statues de Jules César et d'Octave lui-même avaient été abattues. Pourtant, l'Empire tenait bon, avec force troupes dans les régions les plus éloignées. À Tomis, la garnison n'avait aucun besoin d'intervenir. Les habitants y avaient d'autres soucis. Engranger les récoltes avant d'avoir à redouter des incursions de sarmates incontrôlées. Grâce à une saison favorable, la famille de Callias commerçait au mieux. Beaucoup de bateaux arrivaient sur une mer presque plate. Des soldats romains, mutés, partaient remplacés par de nouveaux arrivants qui ne connaissaient la consigne de ne parler à Ovide, qui de ce fait parlait avec eux, enfin en latin, lui qui souvent se plaignait de le perdre à la longue. Ovide envisageait de faire ses paquets par avance, pour n'avoir pas à les faire trop vite si la délivrance arrivait. D'ailleurs, à chaque accostage, il venait au ponton et son impatience prenait chez lui la forme d'une obsession. Sachant Livie au pouvoir, il eut malgré tout des doutes, persuadé que cette femme rigide et puritaine, selon lui à l'origine de sa condamnation, pouvait éventuellement s'attendrir avec la vieillesse. Octave avait mal supporté les souffrances physiques. De son côté, Ovide portait longue barbe blanche. Il ne pouvait plus marcher qu'appuyer sur deux cannes, parfois aidé par Callias. Sa mémoire commençait à défaillir, mais il écrivait toujours aux uns et aux autres avec fougue et passion, lisait et relisait le plus possible les livres qui lui arrivaient de Rome. Il enseignait la lecture à ce brave Callias, qui de temps en temps lui disait des textes pour reposer ses yeux affaiblis. Avec Ovide, Callias savait aussi écrire, allait jusqu'à réclamer des dictées. Alors, son ami Ovide se lançait dans des improvisations qui réveillaient son âme de poète et que Callias copiait tant bien que mal. La vie de l'exilé devenait agréable, le climat serein, l'effroi bientôt un mauvais souvenir. Ah, partir! Sous peu, ce ne serait plus qu'une petite affaire, de jour. Il fallait d'urgence se rappeler à Tuticanus, à Aurelius Cotta, à Fabius Maximus, à sa chère et tant aimée Fabia. Encore écrire, supplier, apitoyer, composer un grand poème d'attachement à Tibère. Lui, au moins, comprendrait. Les dernières lettres reçues ne laissaient rien entendre, certes, mais le bonheur allait se produire. Ah, revivre, enfin! Il remit en bonne place et bien visible les portraits d'Octave et Livy, à qui il pardonnait d'avance ce qu'il avait enduré. La célébrité reviendrait. Il devrait alors se remettre au travail, penser une grande épopée comme Virgile. Il ne s'installerait plus à Rome. Ce serait Pompéi, Herculanum, Tarente. On verrait ce qu'il y aurait de mieux pour solliciter les muses. Athènes, peut-être, où tant de grands esprits avaient jadis régné. Là, il retrouverait une jeunesse romaine en train de faire les études de rhétorique. Lui, il leur enseignerait la poésie, la force enchanteresse du distique élégiaque. Les grandes envolées du grec classique ou des célèbres alexandrins ne lui feraient pas peur. Bon, Callias, tu ne mesures pas ma joie profonde. Aujourd'hui que mon Heidegger est mort, tout m'est permis. Bien sûr, j'ai vieilli. Pendant 6 ans, j'ai failli mourir 100 fois de désespoir. Et maintenant, vive la liberté! Oh, avant de tant te réjouir, tu devrais réfléchir. Tu as toutes les raisons de croire que tout ira bien pour toi, mais croire n'est pas savoir. Il est bon d'espérer, oui. Oh, ce n'est pas moi qui te dirai le contraire. Mais oui, il est vrai que subitement, j'espère. J'espère parce que ma santé est un peu près bonne à cette heure-ci. Peu importe la santé, mon vœu le plus intense est de partir de ces lieux. Comme je l'ai écrit à ce vieil ami de Tuticanus, je ne me soucie plus guère de savoir où je serai envoyé en quittant ces rivages. Même si ce n'est pas l'Italie, le lieu où j'irai finir mes jours, quel qu'il soit, me plaira davantage que cette terre. On m'a reproché mes plaintes, je le sais. Et qu'un bateau, enfin, m'emmène en Afrique, en Espagne, pourvu que j'échappe à ce pays maudit où n'habite que la violence et la pauvreté, et où les jettes n'adorent que Mars. Mais, Ovide, mon ami, oui, je sais qu'ils m'ont bien accueilli, qu'avec moi ils sont aimables, serviables, que les Grecs comme toi, ils sont charmants. Si les dieux n'existent pas, tant pis. Je prie que des esprits veuillent m'entendre. Parfois, quelques tomitins m'en ont voulu d'avoir tant manifesté d'amertume d'être parmi eux. Mais dois-je me couper les doigts pour ne plus écrire? Je n'ai commis aucun crime. Mais non, ce ne sont pas des tomitins que je me plains. C'est leur pays qui m'est odieux. Le froid, les incursions à craindre de tous côtés, des remparts attaqués. Tout le monde se calfeutre, vit renfermé. Voilà ce qui justifie mes plaintes, non les habitants d'ici, terrorisés autant que moi. Tu en sais quelque chose toi-même, non? Oui, je partage ton sentiment. Oh, il doit y avoir par ici un bonhomme malveillant qui a répandu sur moi une rumeur mauvaise, me prétend des propos que je n'ai pas tenus. Il a dû donner de mes vers une interprétation fausse, pour me nuire ici ou à Rome. Oh, je te le répète, quitte à te lasser, banni de ma patrie, Toi et d'autres Tobitains m'avez accordé une hospitalité durable, fidèle. Pense à cela. Seuls les Romains de la garnison ne m'ont jamais adressé la parole. Imagine un instant que les Grecs de Tomis refusent de te parler parce que tu as quitté Milet. Pour toi, ce serait insupportable. Je sais bien que des Grecs détestent les Romains parce que nous avons réduit la Grèce en province romaine. Et pourtant, toi, tu es grec. Tu me parles, tu me soutiens par ton amitié si solide. Tu t'occupes de mon bien-être, de ma demeure. Seul ce pays empoisonne mon existence. Voilà pourquoi renaît mon espoir de partir une bonne fois. J'ai prévu d'écrire encore et encore à mes amis et à ma femme qu'ils aillent supplier Tibère pour qu'il efface ma honte et mon malheur. Devenu empereur, il a le pouvoir d'annuler une décision antérieure, surtout injuste et violente contre moi. Mais je le crois aussi, mais il a certainement d'autres soucis en tête, et le cas d'un exilé parmi d'autres ne doit pas l'empêcher de dormir. Allons, Callias, ce n'est pas toi qui vas me décourager. Allez, en tout cas, buvons un bon coup à ton départ, puisque c'est ton souhait le plus vif. Nous guetterons les bateaux qui arriveront de Rome, car l'un d'entre eux apportera une lettre qui va t'annoncer la nouvelle tant attendue. Et puis j'ai réfléchi à ta proposition de partir avec toi, je suis prêt. Tes parents vont peut-être s'y opposer. Au contraire, ils seront débarrassés d'un boiteux. Ils me traitent toujours de bon à rien, d'incapable, et j'en passe. Je ne mange pas à leur table, et je suis en corvée de bois, porteur d'eau, bref, une sorte d'esclave. Mais partir avec toi serait une délivrance, une vraie. À Rome, plusieurs amis d'Ovide, dont Uticanus, Aurelius Cotta et Sextus Pompée, attendirent quelques mois les débuts du principat de Tibère avant d'envisager de le rencontrer au sujet de l'exilé de Tomis. Ils obtinrent rendez-vous assez facilement. Ils commencèrent par lui expliquer le cas qui méritait d'être considéré vu les 6 années déjà passées sur les bords du pont Euxin. On ne pouvait plus faire durer une peine due, selon les termes de l'accusation, à une œuvre que tout le monde latin considérait comme de haute valeur poétique et morale. Certes, il y avait probablement autre chose, mais ils n'y firent aucune allusion. Fier de sa position nouvelle et de sa puissance, Tibère avait accepté de les entendre malgré sa tendance à ne guère montrer un sens précis de la pitié. En tant que militaire couvert de gloire, l'homme passait déjà pour dur et exigeant dans tous les domaines, en particulier celui de l'ordre. « Je veux bien examiner le cas d'Ovide, leur dit-il. Je connais de votre valeur à tous trois, en particulier à vous deux, Aurelius et Sextus, dont les ancêtres sont célèbres et respectés tant à Rome que dans l'Empire. Cependant, il m'est difficile de reprendre une condamnation par César, Auguste. S'il a eu à faire enlever les bibliothèques l'art d'aimer, il devait avoir ses raisons. Là-dessus, je suppose que vous me comprendrez. Oui, cette œuvre est connue, dit-on, appréciée de beaucoup. En ce qui me concerne, je vous le dis franchement que je ne l'ai jamais lu ni entendu réciter. J'ai seulement su par lui dire que son livre 3 a donné cours à des discussions agitées en ce qui regardait la liberté des femmes, la facilité du divorce, les méthodes pour séduire, voire pour traquer le gibier, comme on le dit vulgairement. Votre demande mérite donc un examen approfondi de ma part. Je ne vous garantis rien sur l'issue à donner. Tibère César, 6 années d'exil hors d'Italie pour si peu. Oh, pour si peu, dites-vous. Mais en réalité, notre ami Ovide n'a fait que peindre les pratiques courantes. Il est évident qu'Octave voulait mettre de l'ordre dans la morale publique actuelle, qu'il estimait ne plus correspondre à celle du passé. Or, une peinture du comportement général ne faisait que le souligner et le montrer, afin de corriger ses habitudes répréhensibles. Manifestement, telle était l'intention de notre ami. Je viens de vous dire que je vais prendre connaissance de cette œuvre. J'en ferai venir un exemplaire au Palatin. Je la lirai ou en ferai une écoute attentive. C'est ensuite que je vous convoquerai pour en rediscuter sur pièce. Si le ton et la forme ne me déplaisent pas, je vous dirai ma décision. Soyez assuré que je me montrerai le plus juste selon ma conscience. D'énormes problèmes se posent à moi, tant de questions à résoudre pour l'instant. Ainsi, ne soyez pas trop pressés, il me faut du temps. Informé de l'intervention de ses trois amis, Ovide écrivit à Sextus Pompée une lettre de remerciement fervent. Il lui rappelait en substance combien il lui devait en tout et pour tout. Sextus resterait pour lui le premier après les dieux d'en haut, avec tant de bienfaits. Moi qui suis si peu, compte-moi dans ton patrimoine, bien que ce triste cadeau te fasse une bien maigre place dans le bon Tocsin. Je crains de t'adresser encore les mêmes prières et que tu n'en ressentes que de l'ennui. Que faire cependant? J'espère que ton crédit auprès du nouveau César ne reste pas sans effet, car tu es le rempart et le gardien de ma survie. Je veux que le monde entier le sache, car si mon œuvre va au-delà de ma mort, toi seul auras été mon ultime sauveur. Les trois amis eurent la surprise de ne pas attendre trop longtemps la réponse de Tibère César. Convoqués au Palatin, ils furent reçus sans grands égards par un empereur qui leur parut nerveux. Après votre demande en faveur d'Ovide, je me suis renseigné sur la teneur du jugement rendu par le tribunal impérial. Il accuse votre ami d'immoralité et d'avoir blessé gravement l'impératrice ma mère. Il me reconnaît n'avoir ni lu ni entendu réciter le texte en question, pas le temps. Face au problème à régler et des vies interminables qui m'épuisent. Octave avait laissé courir même des urgences à cause de sa vieillesse et de ses douleurs. Or, il faut y faire face, et sans délai. Mon jugement est que je remets à plus tard une intervention, d'ailleurs peu probable, car je ne vous cache pas que les attendus du jugement exigé par Octave n'ont pas dans le sens d'un rappel de votre ami. Ainsi, aujourd'hui, je ne peux rien pour lui. Je crois qu'il en sera désespéré, mais ses imprudences peuvent être pardonnées. En ce domaine, j'ai mes raisons. J'ai dit. Les trois amis d'Ovide repartirent frappés par ce coup terrible. Comment le lui faire savoir? Lui expliquer, lui offrir un soutien seulement verbal et dérisoire? Survivrait-il à cette nouvelle? Il s'agissait ainsi d'une condamnation soudain confirmée à vie. Fabia s'effondra en larmes quand Udicanus la tint au courant. Elle affirma vouloir partir pour Thomis rejoindre son mari. Aurelius Cotta l'en dissuada. Son départ serait inutile et ne consolerait pas Ovide de ne plus revoir l'Italie. Outre qu'elle devait gérer leur fortune et l'éducation des enfants, les amis d'Ovide ne se gênèrent pas pour répandre dans Rome la sévérité de Tibère en cette occasion. L'empereur en perdit assez vite cette sympathie que les peuples accordent au début d'un règne. Les illusions s'évanouirent. Si Octave était passé pour indulgent les dernières années, il apparaissait que son successeur ne ferait aucun cadeau à qui que ce fût, et quels qu'en fussent les motifs. Il ne restait que la peur devant ce nouveau nom de tyran que l'on commença à lui donner. On vit en lui un tribun militaire dont les fonctions consistent à réprimer les velléités de désobéissance. Même le Sénat se mit à trembler. En plus de ça, Tibère n'était pas le fils d'Octave, mais seulement un adopté qui jouait les vrais héritiers du sang. Il n'avait plus de crédit que chez les prétoriens, gorilles dont il dut vite s'entourer. Il avait nombre d'informateurs, car des menaces d'assassinat parvenaient au Palatin. Quand Ovide reçut l'affreuse nouvelle, Il envisagea aussitôt de se suicider. La présence de Callias l'empêcha d'en arriver à cette extrémité. Mais le sommeil le quitta pendant plusieurs mois et sa maigreur devint inquiétante. Callias avait beau le nourrir, le repousser à composer des poèmes, l'exilé le priait plus. Ses yeux s'obscurcirent, sa pupille se voila de blanc. Depuis quelque temps, il avait eu besoin de canne. Callias suivit une chaise à roulettes pour l'emmener en promenade. Sa parole devint incertaine autant que sa mémoire. Il ne parlait presque plus le latin. Il perdait son aisance en grec. Le seul romain à pouvoir vraiment le consoler était Julius Vestalis, qui commençait à comprendre que la fin du grand poète était proche. Un jour, cependant, Ovide lui demanda s'il ne pourrait l'aider à fuir. Quelque part, n'importe où, mais fuir en Grèce, en Afrique, tout mais ailleurs. Or, Vestalis l'avait sous sa garde. Il s'excusa de refuser. Impossible, car à son tour il en serait condamné. Tous deux risqueraient la mort. Arriva enfin en automne de l'an 769 une lettre de Fabia. Ovide retrouva sur le coup l'espoir d'une nouvelle qui le rassurerait sur son avenir. Callias décacheta le rouleau et réussit tant bien que mal à le lire à son vieil ami. Elle précisait le temps qu'ils faisaient à Rome, l'état de leurs affaires personnelles, la santé des enfants, qu'elle avait envisagé d'aller rejoindre à Thomis, mais que sa famille et leurs amis sûrs l'en avaient dissuadé à cause du long et dangereux voyage. Elle lui souhaitait de conserver sa santé et que le temps le servirait. Rien d'autre. Le désespoir du poète fut à son comble. Il passa l'hiver dans la souffrance et le sentiment d'un abandon définitif dont il pensa ne jamais pouvoir se relever. Au printemps suivant de l'année 770, à l'époque de son anniversaire, il venait d'atteindre les 60 ans. Le vieillard hasard voulut qu'il fût soudain victime d'une très forte grippe et d'une fièvre que les deux médecins de Thomis déclarèrent fatale. Un soir, comme apaisé, il s'éteignit dans les bras de Callias. Vestalis et la garnison de Thomis firent les prières d'usage et procédèrent à son enterrement dans un champ enneigé hors de la ville, sans inscription. Sentant qu'il avait tout perdu, Callias quitta Thomis à pied vers le delta du Danube. Depuis ce jour, on ne sut plus rien de lui.